spectaculaire au texte, à la connaissance du texte biblique à partir du XVIIe siècle, et un Français, Richard Simon, médecin de Louis XIV, qui a été quand même un des premiers à bien comprendre que la Bible c'était un problème difficile et qu'elle reposait sur une histoire complexe, c'est ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Alors c'est pas un gros mot, ça veut dire que c'est de l'histoire, historien. On cherche le contexte historique. Et dans quel contexte historique un texte a pu naître, même si il situe son récit beaucoup plus haut dans le temps ou dans un autre contexte. Vous voyez ce que je veux dire ? Je raconte un conte de fées, il était une fois, c'était quand ça ? Par contre, je peux raconter un roman de chevalerie et le situer au XIIe siècle, mais je le raconte maintenant. Alors, dans quel contexte je raconte cette histoire ? Et critique, ça veut dire qu'on essaye de discerner dans le texte les éléments qui peuvent, parce que le texte est souvent fait comme un millefeuille, vous avez vu un roi 18, un roi 19, avec des visions différentes de Dieu et du rapport à l'homme, est-ce qu'on peut discerner dans le texte, comme dans le texte d'Amos, comme dans le texte que je viens de vous lire, des moments différents d'écriture et des milieux différents de conception du texte ? Ça va ? Alors c'est un travail compliqué, il faut savoir, il y a l'évolution de la langue, il y a des tas de choses qui se passent, il y a toute l'histoire autour, il y a la comparaison avec les civilisations avoisinantes. Bon, c'est un travail qui a pris plusieurs siècles, qui avance encore, qui n'est pas fini, mais dans lequel, à mon avis, vous ne pouvez pas vous lancer, et moi non plus. Voilà. C'est un travail qui est généralement mis à disposition dans les introductions et les notes des Bibles. Dans les présentations des Bibles, il suffit d'être attentif au fait que ça existe, voilà, et on n'a pas tellement besoin d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on nous présente. Lassé de ce travail minutieux, compliqué, qui quand même découpe un peu le texte en rondelles, on découpe Amos entre jusqu'au chapitre 9, verset 10, et puis après on dit 11-15, c'est une autre affaire. Avec toujours la tentation de dire, parce qu'elle est grande, ah mais c'est l'Amos ancien qui est le bon. Non, c'est pas vrai. L'ancien n'est pas toujours le plus bon, le meilleur. Voilà. Donc, comme c'est compliqué, et que finalement, c'est un peu, à un moment donné, ça devient quand même de l'histoire un peu technique. Voilà, ça devient technique, d'aucuns en disent stérilisant. Bon, peut-être. C'est pas sûr. Enfin, peu importe. Comme ça devient trop technique, la troisième, quatrième partie du XXe siècle s'est beaucoup intéressée davantage à la forme littéraire du texte. Au fond, finalement, ce qui compte, c'est le texte qu'on a aujourd'hui. Comme tout à l'heure, je vous ai lu Samuel, et essayer de le faire suggérer quelque chose pour aujourd'hui, ou nous faire comprendre qu'est-ce qu'il veut dire déjà, qu'est-ce qu'il voulait dire à son époque, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui. Et donc, on a développé des études bibliques, l'étude des textes et l'exégèse, hein, le déploiement du texte, des études bibliques avec des méthodes différentes qui s'appellent des méthodes narratives. On étudie ce qu'un texte raconte. Voilà. Un texte, il y a une intrigue, dans l'histoire de Samuel, il y a une intrigue, hein. Il y a Dieu qui veut appeler Samuel, comment il fait ? Alors il y a des acteurs, Samuel, Élie, et Dieu qui appelle. Et il y a des événements ou des personnages qui vont faire évoluer l'intrigue, et l'intrigue qui va se résoudre, voilà. Ou qui va révéler un personnage. Donc, on étudie le texte avec les modèles de la narration, de la narrativité. Il y a une intrigue, il y a un lieu, il y a un temps, il y a des personnages. Ça, c'est beaucoup plus... J'allais dire à la portée, c'est pas toujours facile parce que ça se technicise aussi rapidement, mais c'est beaucoup plus à notre portée d'aborder le texte tel qu'il est, en tenant compte de son genre littéraire quand même, et en regardant au fond qu'est-ce que le texte veut raconter, et aussi de plus en plus au fond en quoi le texte, quel chemin le texte veut me faire accomplir à moi lecteur. Ça c'est très intéressant de se poser toujours la question, enfin, où est-ce qu'il veut m'emmener? Quand vous lisez un roman, vous savez bien qu'il veut vous emmener quelque part. Et vous avez à la fois hâte qu'il vous y emmène et pas hâte, parce qu'une fois que vous saurez la fin, vous aurez fini le roman et c'est pas drôle. Et voilà, et ben c'est pareil pour la Bible. On voit bien qu'ils veulent nous emmener. Où est-ce qu'ils veulent m'emmener comme ça ? Où est-ce qu'ils veulent m'emmener ? Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire ? Au moins à leur époque et aussi aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'exégèse narrative. Quand il s'agit de discours, parce que quand quelqu'un vous tient un grand discours, de trois pages, c'est moins drôle, ou de texte de loi, etc. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes outils techniques qu'on va utiliser pour, ou un poème, pour l'analyser. Mais on va utiliser la rhétorique, c'est-à-dire comment c'est construit, il y a une introduction, il y a une conclusion, il y a des arguments, comment ils se développent, il y a des digressions, il y a des exemples, etc. Voilà. On apporte un peu d'appareil technique, contemporaines pour l'étude de ces différents textes en tenant compte de leur genre littéraire. Donc vous entendrez parler d'exégèse historico-critique, d'exégèse narrative et pour les discours rhétoriques. N'ayez pas peur, c'est des gros mots, mais en fait, voilà, il y a des choses qu'on peut très bien saisir derrière. Ça marche ? Et puis, vous entendrez parler, parce que c'est, tout ça, c'est dans le document de la commission biblique à Rome, qui a pondu un certain nombre de documents, dont un gros document qui est ancien maintenant sur la façon de lire la Bible. Alors, vous entendrez parler de l'approche canonique du texte. Qu'est-ce que ça veut dire, l'approche canonique ? À un moment donné, les juifs d'un côté, les chrétiens de l'autre, peut-être simultanément, peut-être les chrétiens un peu plus tard, ont décidé que tel ou tel livre appartenait à l'écriture, à la Bible, et qu'ensuite ça serait autre chose. On ferme le canon, on ferme la liste si vous voulez. Le canon c'est une liste, et on ferme la liste. Vous pouvez, tout à l'heure, je vous montrerai la liste des livres de l'Ancien et la liste des livres du Nouveau Testament. Ça marche, ça ? Alors, ça forme un canon, c'est-à-dire qu'une liste de textes auxquels on ne touche plus, c'est-à-dire qu'on n'en ajoute pas d'autres. Voilà. Et ça va être des textes qui vont servir un peu de référence. C'est aussi intéressant de lire la Bible en se disant, ça fait partie d'un tout qui est fermé, qui est le canon. Et il faut faire jouer l'ensemble de la Bible. Par exemple, c'est intéressant de lire le premier livre de la Genèse et d'aller voir ce qui se passe dans le dernier, l'Apocalypse. Vous voyez ? De montrer qu'au fond, il y a quelque chose qui se clôt, qui s'ouvre, mais qu'il y a des choses en écho. C'est intéressant de voir que le livre appelé livre de la Genèse, au moins en grec, est le premier livre de la Bible et raconte, essaye de raconter, c'est un mythe, les origines du monde, et que l'évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, commence par les mots Genèse de Jésus-Christ. Voilà, Genèse, il commence par le mot de Genèse. C'est-à-dire que très clairement, il raconte à nouveau l'origine d'un monde nouveau. Et il le fait en sachant très bien que ça fait écho avec le livre de la Genèse. Alors voilà, ces échos très forts et le fait de regarder l'ensemble des livres, c'est intéressant. On appelle souvent ça l'approche canonique. C'est une approche qui est au fond plus globale, qui regarde comment les livres s'articulent entre eux. Ça marche, ça ? Voilà. C'est pour dégonfler un peu les choses qui peuvent vous faire peur. Alors, maintenant quand même, je vais essayer de vous consoler. Vous consoler mon peuple, dit le deuxième Isaïe, consoler mon peuple. On va quand même essayer de fixer un peu, au moins un moment où cet ensemble a pris, pour l'Ancien Testament, nous l'appelons l'Ancien Testament, on va en parler après, a pris consistance. Quand est-ce que ça s'est cristallisé, quoi ? Quand est-ce que ça a fait bloc ? Quand est-ce que ça a été rassemblé ? Que ça a commencé à être vraiment mis par écrit et fermé, hein ? Depuis un demi-siècle, à peu près, même pas, on essaye de centrer ça, de dire, au fond, il y a eu dans l'histoire des civilisations anciennes un moment intéressant qu'un auteur a appelé l'époque axiale autour du 6e siècle. Alors quand je dis civilisation ancienne, c'est celle que nous connaissons, c'est-à-dire en gros l'Eurasie, Europe et Asie. Hein. On ne connaît rien des civilisations sud-américaines ou nord-américaines et africaines. Enfin, pour ce qu'on connaît, autour du 6e siècle, on voit, et c'est lié probablement à des changements de structure politique avec des montées de bourgeoisie qui ont pris une certaine aisance et culture, on voit un peu partout des grands mouvements, des grands auteurs, des grands personnages se dresser et au fond être à l'origine de mouvements religieux importants. Vous avez Bouddha en Inde, 6e siècle. Vous avez Confucius en Chine. Vous avez Zoroastre ou Zarathoustra, Zoroastre en Perse. Vous avez en Grèce l'éclosion d'une pensée qui échappe au mythe avec la prédominance du discours raisonnable, du logos, c'est les philosophes pré-socratiques, et c'est aussi le 6e siècle. Et vous avez, dans ce petit coin du monde, qui est le pays d'Israël, en tout cas à Babylone, où ils sont en exil, eh bien, ce moment où on va voir la fin de cet exil et la possibilité d'un retour sur la terre. Et on considère que c'est au fond ce ce moment-là, c'est gros, hein, c'est un siècle, a été quand même dans beaucoup d'endroits, pour des raisons peut-être politiques et économiques, peut-être culturelles, des moments clés de la pensée et de la mentalité religieuse. Bon, vous en penserez ce que vous voudrez, je vous raconte ce qu'on dit. C'est intéressant en tout cas, c'est intéressant. Et du coup, on regarde, quand on regarde de plus près, on voit très bien qu'effectivement, à Babylone, il y a eu une espèce de jonction. Ce sont ceux qui ont été déportés. C'était essentiellement, cette fois-ci, c'est pas tout le monde. Hein. Les Babyloniens ne déportaient pas les populations paysannes, etc. Ils coupaient la tête aux élites. Ils emmenaient tout ce qui fait de la richesse. C'est-à-dire le roi, sa cour. La première déportation, ça a été 800 personnes. Les prêtres, parce qu'ils ont du pouvoir, en tout cas les grands prêtres. Et puis les artisans, parce que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est les artisans. Et puis c'est déplaçable, un artisan. Voilà. Donc ça ne fait pas une énorme population, quand même. Quelque chose comme peut-être 10 000 personnes, 8 ou 10 000 personnes. Bon, ces gens-là, à Babylone, avaient eu des enfants. Ils étaient peut-être 15 ou 20 000. En tout cas, il n'y en a pas tant qui vont rentrer. Mais il y en a un certain nombre qui vont, là-bas, essayer de garder leur identité fort possible, notamment les prêtres et les scribes, c'est-à-dire au fond les lettrés du pays qui avaient emmené tous leurs documents, qui avaient pu prendre tout ce qu'ils avaient et puis qui avaient une mémoire certainement orale énorme. Et c'est probablement à ce moment-là qu'ils ont commencé à mettre par écrit ou à réunir les écrits et les oraux et à rédiger cet énorme ensemble qui est au moins les 5 livres de la loi. Mais certainement aussi les livres dits prophétiques, 1 Samuel, 2 Samuel, roi. Les livres des prophètes ont été repris et augmentés. Le deuxième Isaïe, il y en aura un troisième après. Jérémie a été relu. Le grand prophète Ézéchiel était sur place, etc., etc. Ça va ? Et c'est aussi à ce moment-là qu'on écrit donc les 5 premiers livres et qu'on repense à la lumière d'un retour, d'une sortie d'exil, à la fois la sortie d'Égypte, l'Exode, et la création du monde, qui est une sorte de salut. Le récit de la Genèse, c'est arracher le monde aux eaux qui vont, une sorte de sortie au fond vers la vie. Donc il est fort possible, il est même probable, on va de plus en plus, hein, que c'est à cette époque-là, au cœur du 6e siècle, le retour c'est à partir de 538, plutôt 520, c'est devenu possible, à partir de 538 avec Cyrus. C'est à ce cœur du 6e siècle que le travail commence à se faire, avec essentiellement ceux qui travaillent, ce sont des prêtres, et on a appelé leur tradition qui se voit dans la Bible l'école sacerdotale, et ce sont des scribes, ceux qu'on appelle plutôt les scribes du Deutéronome, la deuxième loi, qui est une autre façon de raconter l'histoire et de rapporter les lois d'Israël. Et puis des prophètes, qui sont plutôt liés à l'école des scribes et du Deutéronome. Enfin, ces gens-là, des petits groupes, se mettent au travail. Se mettent au travail et le travail va continuer lorsque eux qui étaient déterminés et qui avaient déjà pas mal reconstruit leur histoire vont partir, rentrer. Tout le monde n'est pas rentré. Beaucoup sont restés. D'où le fait que la diaspora juive de Babylone va être des plus vigoureuse et une des plus riches de la terre, du monde juif, pendant très très longtemps. Mais ceux qui sont rentrés étaient les plus déterminés et ceux qui étaient les plus fervents du culte du Dieu unique, cette fois-ci, hein, le Dieu qui englobe, a dominé tous les autres dieux, il n'y en a plus qu'un seul, moi je suis, donc une espèce d'affirmation massive de Deuxième Isaïe. Ils veulent garder le culte du Dieu unique et ils rentrent, un certain nombre d'entre eux, par groupe, on en reparlera, pour s'installer à Jérusalem et reconstruire. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de rempart, il n'y a plus rien. Hein. Il y a des paysans autour, mais la ville, il n'y a plus rien. Voilà. Et ils emmènent avec eux ce qu'ils ont commencé à travailler et ils vont continuer à le travailler pendant 1 ou 2 siècles, en rajoutant, en reprenant, etc. Une immense entreprise de rassemblement des traditions, de compilation, de relecture, de rédaction. Ça s'étend certainement, là on était au cœur vers la fin du 6e siècle, ça s'étend certainement sur le 5e et peut-être même une bonne partie du 4e siècle, jusque vers 350, voilà. Ça va ? Donc voilà, si vous voulez une date, j'allais dire de... En tout cas, en 350, bon, 400 disons, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, sont certainement mis au point, complètement, et des grandes pans du reste s'ajoutent, ça va se dessiner très vite. On a un moment où on voit bien qu'il y a une date butoir, puisqu'il y a un moment où, là, les 5 livres de la loi, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, qui sont écrits en hébreu, toute la Bible est écrite en hébreu à ce moment-là, vont être traduits en grec. Pour être traduits en grec, il fallait qu'ils existent, hein, et que ça soit fixé. On ne traduit pas des récits oraux, ou des trucs, on les traduit, mais comme on a les textes grecs, voilà, c'était vraiment fixé. Or, ils sont traduits en grec sur ordre du roi Ptolémée à Alexandrie en Égypte, un gros lieu aussi de diaspora égyptienne, et de son bibliothécaire Démétrios pour la bibliothèque d'Alexandrie. Entre, on a les dates là pour le coup entre 285 et 282. Voilà, la grande bibliothèque d'Alexandrie. Au motif que le roi parlait grec, c'est des successeurs d'Alexandre, mais que c'est administré, on va dire, au moins dans la ville, dans la campagne par des Égyptiens, et dans la ville, il y avait quand même un cinquième, pour très longtemps, un cinquième de la population d'Alexandrie, au moins, était juive. Et donc cela, alors ils ne parlaient pas hébreu, ils parlaient araméen, mais leur livre, c'était, leur loi, c'était ce que nous appelons la Bible, c'est ce que nous appelons la Torah, la loi, les 5 livres. Et c'était en hébreu. Et le roi n'était pas content d'avoir des gens qui vivaient sous son règne et sous une loi dans une langue qu'il ne comprenait pas. Donc, il fait traduire. Et c'est très rapidement traduit. Voilà, donc là, c'est que c'est fini. On a certainement, mais on le lira cet après-midi ou la prochaine fois, il y a un moment dans le livre de Néhémie où Esdras, le scribe, qui est à la fois scribe et prêtre, on voit bien que c'est les deux ensemble, se met à lire devant tout le peuple rassemblé le livre de la loi. Et ça dure toute la matinée au moins, ou la journée, il s'était pas compliqué. Mais c'est une grande fête, voilà, c'est la clôture de la Torah. En hébreu, la loi, ces 5 livres s'appellent la Torah. En grec, ça deviendra les 5 rouleaux. Attention, ce n'est pas encore un livre. Hein. Ça ne sera pas un livre avant l'époque chrétienne, 2e siècle. Ça s'appelle le Pentateuque, Penté 5, les 5 rouleaux. Ça marche? Donc c'est la même chose, Torah et Pentateuque. Enfin, l'un est en hébreu, l'autre est en grec. Ça va? Donc vous voyez un petit peu, on peut fixer un peu l'histoire de la rédaction, sachant que très vite après, ce qui va être traduit, c'est... Et on en a des traces dans le Nouveau Testament. Isaïe et les psaumes. Les livres que les synagogues les plus pauvres avaient, et on le voit à l'époque de Jésus à Nazareth, c'est évidemment les 5 rouleaux de la loi, le rouleau d'Isaïe et le rouleau des psaumes. Quand on n'était pas riche, on avait au moins ça. Après, les grandes synagogues, enfin, voilà, dans les capitales juives, on avait tous les livres. Tout va être traduit en grec en un siècle et demi. En gros, jusque vers 150, tout est traduit en grec. Ça va, ça? Donc vous voyez, le moment de fixation, c'est vraiment ce 6e siècle, qui est le moment où on compile, on relit, on reprend, à la fois la loi, les récits historiques, les prophètes, les psaumes, tout ça se met en place, même si ensuite on va continuer encore pendant un siècle et demi à affiner, à jouer, etc. Voilà, pour que vous ayez un petit peu quand même un repère dans l'histoire. Alors, maintenant je vais dire des choses un petit peu anecdotiques par rapport à ça, mais qui peut répondre à des questions que vous auriez, puisqu'il y en aurait peut-être d'autres. Vous avez dit qu'il y aurait des questions et on ne les a pas. Ah si, on les a pas entendues. En quelle langue est écrite la Bible? Comment elle se présente? Alors, c'est compliqué parce que la Bible ne nous appartient pas à nous chrétiens. Et nous avons un peu tendance à nous l'approprier en considérant que nous avons un ancien et un nouveau testament. Alors il y a des gens qui essayent de dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un premier testament et un second. Ça passe pas parce que c'est faux. Excusez-moi, mais pour les chrétiens, il y a bien un ancien et un nouveau testament, ancien n'étant pas nécessairement un terme péjoratif. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas dire premier et second testament pour les chrétiens. Par contre, le judaïsme, lui, a des écritures qui correspondent à une partie de notre ancien testament, qui ne sont pas un ancien testament, qui sont les écritures juives. Ça va? Voilà. Que nous traduisons aussi, que nous utilisons aussi. Mais il faut bien voir que la Bible ne nous appartient pas. Une grosse partie de notre Bible, c'est-à-dire la majeure partie, pas tout, mais la majeure partie de ce que nous appelons l'Ancien Testament, appartient d'abord dans sa forme, dans la version hébraïque, dans sa forme hébraïque, au peuple juif. Ça marche ? Alors, c'est d'abord comme ça que ça a été écrit, et ça a été écrit en hébreu. L'hébreu est une langue sémitique, donc comme l'arabe aujourd'hui et comme l'israélien aujourd'hui, qui n'est que l'hébreu ancien remis au goût du jour et dans lequel on a introduit internet, cinéma, avion, etc. C'est une langue où on ne note que les consonnes. Et donc, pour lire, il faut savoir la langue. Parce que sinon, vous ne savez pas sur les voyelles. Alors, en fait, alors, il y a des journaux en arabe comme ça, vous n'avez que les consonnes, moi j'avoue que je ne comprends rien. Bon, et même en Israël, s'ils ne mettent que les consonnes, j'ai un peu de mal. Bon, il y en a qui vocalisent, mais il y a encore plein de choses qui ne sont pas vocalisées. La Bible était écrite à une époque où on ne vocalisait pas, on ne mettait pas les voyelles. On notait les consonnes et puis débrouillez-vous. D'accord ? Ce qui facilite la diversité des interprétations. Si je vous donne les trois consonnes, bon, une petite aspiration qu'on n'entend pas en français, un tout petit H. M et R, qu'est-ce que vous lisez ? Vous pouvez lire émir, amour, amer, aimer, Omar, et vous pouvez encore en inventer d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au fond, l'interprétation peut jouer. Bien sûr, il y a une tradition de lecture qui se transmet, qui dit que c'est comme ça qu'on doit comprendre. Mais celui qui veut faire exploser le texte et dire autre chose, il a des grandes facilités. Ça va ? Alors, la tradition de lecture, évidemment, c'est prolongé. Les textes qui existent, que nous avons des très anciens manuscrits de cette Bible en hébreu, qui remonte donc au 4e siècle, 5e siècle, à Qumran, avec des textes du 1er siècle, voire début du 2e, avant Jésus-Christ, ces textes bibliques en hébreu ne sont pas vocalisés. Mais, au cours des siècles qui ont suivi, surtout les premiers siècles de notre ère, les rabbis, on en reparlera après la paix de Jérusalem, ont voulu éviter la pluralité des interprétations. Sinon, le risque, c'était effectivement qu'un certain nombre de groupes religieux, dont les chrétiens, s'en emparent et les tirent de leur côté. Donc, ils ont voulu fixer la tradition juive de lecture. Ça marche, ça ? Et il y a fait un énorme travail qui a mis du temps. Hein, ça a duré de 4, et ça s'est terminé que vers le 7e, 8e siècle. Hein. 4e au 8e siècle, un travail de vocalisation, comment on doit lire le texte, qui a été fait par des savants qui s'appellent les Massorètes. Ça va ? Ceux qui disent comment on doit lire, qui disent le texte de façon juste. Les Bibles en hébreu actuellement sont vocalisées et l'interprétation donc est fixée, pour autant qu'un texte, l'interprétation d'un texte est fixée, un texte poétique, de toute façon, il est fait pour faire rêver, donc voilà. Enfin, pour autant que l'interprétation est fixée, elle est fixée depuis le 7e, 8e siècle. On avait un premier grand manuscrit à Alep de la Bible en hébreu vocalisée, qui datait du milieu du 9e siècle, je crois, et qui a été détruit, non pas dans la dernière guerre de Syrie, mais dans une guerre précédente au milieu du 20e siècle. Donc on a perdu un manuscrit d'une importance plus ancien qu'on avait. Bon, il en reste un ancien, celui de Leningrad, et puis après il y a eu l'imprimerie, après, etc. Ça s'est fixé. Alors il y a quand même... Les Juifs, à Babylone, ne parlaient pas hébreu. Ça commençait déjà à être fini, l'hébreu. L'hébreu restait comme... Nous, ça a été longtemps le latin, la langue liturgique, ou la langue des savants. Parler une langue voisine, l'araméen, donc qui est proche, comme l'espagnol est proche du portugal, le proche du portugais, ne dites pas un portugais qui parle espagnol, hein, sinon il vous étrangle. L'inverse encore pire. Voilà. Donc, une langue voisine, l'araméen, qui était la langue courante, dans l'Empire perse, partout répandue. Mais ils ont écrit quand même en hébreu parce que c'était leur langue liturgique, la langue du passé d'ailleurs, chez eux avant ils parlaient largement hébreu. Ouais, l'araméen s'impose petit à petit. Quand ils reviennent, on parle à l'araméen, mais la Bible est écrite en hébreu, sauf quelques morceaux de texte qui sont introduits en araméen. Voilà, dans le livre de Daniel, enfin des textes tardifs. La traduction de la Bible en grec, qu'on va appeler la Septante, celle dont je vous ai parlé sous le roi Ptolémée, et son bibliothécaire Démétrios va s'appeler la Septante. Elle est tout entière en grec, Alors je vous dis rapidement, parce que c'est drôle, pourquoi la Septante, vous savez peut-être, parce qu'il y a une belle légende qui naît très vite. Il faut traduire, c'est compliqué, c'est gros, hein, c'est un pavé. Et donc, le roi fait venir de Judée 70 vieillards qui parlent à la fois très bien l'hébreu, qui connaissent l'hébreu bien sûr, et qui parlent très bien le grec. Et alors, il les soigne, il leur pose des tas de questions, il leur vante leur religion, enfin, il les flatte, et il les installe dans l'île de Pharos, dans 70 maisonnettes au bord de la mer, où ils sont admirablement traités, avec seulement interdiction de se parler. Voilà. Donc chacun doit travailler dans son coin. Donc ils travaillent un certain nombre de temps, il y a des repas somptueux, ils vivent là. Et au bout d'un certain temps, ils sortent tous avec une traduction, et miracle, c'est la même.
Ah.
Ah ouais. Donc un texte inspiré, et c'est cette traduction qui d'ailleurs a des variantes, hein, qui va s'appeler la Septante. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient 70. Voilà. Donc la légende va s'amplifier. C'est une traduction qui a à la fois sa qualité et sa difficulté, parce que au moins pour la partie de la loi, qu'on ne va pas appeler la Torah mais le Pentateuque, c'est plutôt une traduction qui est un peu loin de l'hébreu, qui n'est pas un mot à mot. Une traduction qui prend le texte et puis qui le comprend et le transpose en grec. Après, les traductions des prophètes et des psaumes seront beaucoup plus littéralistes, si on peut dire. Donc ça, c'est écrit en grec. Les auteurs du Nouveau Testament, maintenant, parce que je suis dans les langues, je terminais, les auteurs du Nouveau Testament écrivent tous en grec. Y a-t-il eu des parties du Nouveau Testament en araméen, puisque Jésus parlait araméen? On savait sûrement un peu de grec comme tout le monde. On savait demander son pain peut-être, ou je ne sais pas quoi, son chemin en grec, mais pas plus. Les auteurs du Nouveau Testament, certains parlent sûrement araméen, Matthieu sûrement, mais ils écrivent en grec. Et ils se réfèrent à 80% au moins au texte grec de la Septante. Parce que ce sont des gens qui ont une culture juive grecque. Et donc ils citent la Septante. Avec des, évidemment, des variantes impressionnantes. Impressionnantes. Il y a un certain nombre de textes du Nouveau Testament qui ne fonctionneraient pas, la référence à l'Ancien Testament ne fonctionnerait pas sur le texte hébreu. La plus connue, c'est l'annonce dans le chapitre 1 de Matthieu de l'ange à Joseph. La jeune femme, alors l'hébreu cite le texte d'Isaïe, la vierge va enfanter d'un fils. Et tu l'appelleras, ou on l'appellera, Emmanuel, Dieu avec nous. L'ange, ou Matthieu, cite le texte grec d'Isaïe. Parthénos, la Vierge, Parthénos, c'est Athéna, c'est la virginité faite femme, va enfanter, etc. Ça, c'était le texte grec de la Septante. Qui avait traduit un texte hébreu qui disait simplement la jeune reine. Et le mot de l'hébreu, c'est pas du tout la Vierge, c'est la jeune femme qui va avoir un premier enfant. Donc sur le texte de la Bible en hébreu, la démonstration de Matthieu, hein, ne marcherait pas. Et on a plein d'exemples comme ça. Parce qu'il y a eu des variations dans la traduction qui ont installé des interprétations importantes et que nos auteurs du Nouveau Testament, eux, c'est ça leur Bible. Ça marche ? Et ce qui va se passer, et ça c'est important, c'est que cette Septante va devenir la Bible des premiers chrétiens. Alors, il y en avait qui parlaient araméen et qui pouvaient lire la Bible en hébreu. Et vous savez que très vite, le christianisme s'est répandu en dehors, en tout cas en moins d'un siècle, c'est fait, hein, en dehors du monde juif, et dans un monde qui largement parlait grec. Plus loin, il parlera latin, mais à Rome, on parle encore grec. Et à Lyon, Irénée de Lyon, en 175, écrit encore en grec. Voilà, avec massivement la langue. Donc c'est la Septante qui est l'Ancien Testament des chrétiens. Et c'est en grande partie pour ça que le judaïsme, on en reparlera après 70, se sépare de la Septante. D'accord ? Et donc finalement, on a bien des écritures juives en hébreu que nous utilisons aussi, et enfin qui sont vraiment les écritures du monde juif, et un gros bloc grec qui forme l'Ancien et le Nouveau Testament des chrétiens. Ça marche ? Il faut quand même garder ça en mémoire, parce que nous avons une tendance forte à nous approprier l'Ancien Testament. Et je précise, ça induit, ça des façons différentes de se référer au livre. Je m'explique sur un petit tableau. La Bible juive, les écritures juives, ça se présente comme un texte, c'est-à-dire concentrique. Alors concentrique, ça ne veut rien dire. Hein. Avant, c'était des rouleaux. Quand on les a reliés, on ne les a pas mis en cercle. Hein. Si le Talmud est écrit en cercle, enfin, on a mis les livres les uns après les autres. Donc ma construction, elle est une vue de l'esprit. N'empêche que, au centre, le plus important, ce qui règle encore aujourd'hui la vie des Juifs observants, c'est la loi, les cinq livres de la loi, la Torah. À l'époque de Jésus, ce qu'on appelle les Sadducéens, les prêtres, lisaient la Torah et ne lisaient pas le reste de la Bible. Ce qui fait le judaïsme, c'est la loi. C'est une religion de la pratique. On transmet des pratiques. Et alors, à propos de la pratique, pourquoi fais-tu ça? On explique et on raconte. C'est toujours à propos de la pratique, une transmission de la façon de vivre. Donc au centre, la loi. Mais, évidemment, qu'on ne s'est pas privé de la richesse qu'il y a dans les traditions du passé, autour de la loi sont les prophètes. Alors, je les ai mis en hébreu, Nébihim, ça veut dire le Nabi. Il y a eu des mouvements à la fois littéraires et picturaux au XXe siècle, qui sont appelés les Nabis, les prophètes. Alors, Nébihim, c'est le pluriel de Nabi, les prophètes. Et les prophètes, quelque part, font écho à la loi. À la synagogue, à l'époque de Jésus, et pendant longtemps ensuite, on lisait un texte de la loi, qu'on traduisait, alors pour le coup en araméen, pour les gens qui parlaient araméen, peut-être en grec pour ceux qui parlaient grec, et ensuite, on lisait un texte des prophètes, résumé plutôt après ça dans la traduction. Mais donc, voilà, les deux volets, c'était la loi et les prophètes. Vous trouvez, à la fin de l'évangile de Luc, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus qui leur explique dans la loi de Moïse, ou dans Moïse, mais Moïse c'est la loi, et les prophètes, tout ce qui le concernait. Déjà, il y avait cette articulation, la loi et les prophètes, ça marche. Il y avait déjà aussi à l'époque un troisième cercle, plus lointain, qu'on appelle les écrits. Et donc, en hébreu, ça se dit ketuvim, katav, c'est écrire, ketiv, c'est l'écrit, donc ketuvim, c'est les écrits. Donc vous avez la loi, les prophètes, les écrits. Et vous voyez que c'est par ordre d'importance. Ce qui fait le cœur, c'est la loi. Les prophètes, les clercs l'expliquent, les écrits. Alors du coup, après, on pourra mettre autour un certain nombre de livres, comme par exemple des récits qui vont être édifiants. L'histoire de Judith, l'histoire de Tobie, qui sont pourtant très présentes dans la tradition juive, ne font pas partie de la Bible. Ne font pas partie, alors ils ne s'appellent pas ça la Bible, de cet ensemble, Torah, Nébihim, Ketuvim, qu'on désigne sous le nom, sous l'acronyme de Tanakh. T-N-K, ça va? Vous voyez pourquoi? T comme Torah, N comme Nébihim, K comme Ketuvim, ça marche? Ben oui, on ne vocalise pas, mais essayez de prononcer T-N-K. Voilà. Tanakh, ça marche? Donc on parlera dans le monde juif du Tanakh, cet ensemble. Et vous voyez bien comment c'est lu. C'est lu à partir d'un centre. Puis le reste tourne autour et puis il y a les récits édifiants encore. Dans la façon juive de lire le texte, on a aussi un texte qui, puisqu'il a été vocalisé par les massorètes, disons avant le 8e siècle, est un texte qui est, on pourrait dire, fixé. C'est-à-dire il faut lire ça, il ne faut pas lire autrement. Alors, je débrouille toujours pour lire autrement, parce qu'ils sont très forts, mais on ne touche pas au texte. On le lit en hébreu et on ne le touche pas. Et l'enfant, pour sa bar mitzvah, son entrée dans l'âge adulte, doit réciter quelques versets en hébreu. On l'apprend par cœur. Voilà. Après, avec un génie de l'interprétation qui est à l'infini, on fait jouer tous les lettres, tous les mots, tous les lettres du texte pour faire naître des interprétations. Mais on le fait toujours dans une tradition orale, et puis qui est devenue écrite d'interprétation. Et la tradition écrite d'interprétation, ça va être d'abord la Mishnah, ensuite la Gemara, tout ce qui va être repris au 5e, 6e siècle, et évidemment largement amplifié dans ce qu'on appelle la loi orale, qui est le Talmud. On ne peut pas penser judaïsme en pensant uniquement Tanakh, Bible. Les écrits du judaïsme, c'est deux choses. Le Tanakh est encore autour, alors c'est encore des cercles concentriques, d'ailleurs le Talmud est écrit comme ça, au cœur, non pas la Bible, mais des versets d'un premier commentaire, la Mishnah ou la Gemara, et tout autour, des explications. Vous voyez ? Encore autour, il y a cette énorme tradition d'interprétation, de lois, de légendes, de rapports, qui est un monde qui s'appelle le Talmud. Ça marche ? Et c'est à partir de ces traditions d'interprétation, de ces débats sans fin qui sont dans le Talmud, qu'aujourd'hui on continue à lire et à faire, au fond, fructifier le texte biblique dans le monde juif. Ça va ? Ça c'est à peu près clair ? Donc on respecte le texte et sa lettre, mais on l'a sorti de tout un tas de considérations, de débats, de règles aussi, de lecture, etc. Ça, c'est la relation au livre du monde juif. Les chrétiens n'ont pas du tout la même relation au livre. Et de fait, la Septante, qui traduit d'abord le texte hébreu, mais qui y ajoute aussi un certain nombre de textes dont certains existaient dans le judaïsme, Judith, Tobie, et d'autres n'existaient pas. Je vais vous montrer la liste tout à l'heure. Donc la Septante ajoute, hein, ajoute. Judith, Tobie, quelques ajouts au livre de Daniel, bon, on regardera le détail, les Maccabées, etc. Bon, on ajoute des textes. La Septante n'est pas du tout conçue pareil. Alors, c'est difficile à dire de la façon dont à Alexandrie, quand on l'a traduit, on l'a concevée. Parce qu'on est à l'époque des rouleaux, et que les rouleaux, on les entasse dans un coin, et c'est moi qui ai dit qu'il y avait la Torah au centre, parce que c'est comme ça que le monde juif le conçoit. Mais le rouleau de la Torah, il n'était pas au centre des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on traduit en grec, pareil, ce sont des rouleaux, dans quel ordre ? Donc on ne sait rien de la façon dont on comprenait l'importance, et je crois que c'était comme dans le monde juif, la loi au milieu et autour les prophètes et les écrits, dans le judaïsme. Mais les chrétiens, eux, quand ils reprennent cette Septante, on voit bien qu'ils l'organisent différemment. La première mise par écrit complète de l'ensemble, avec quelques trous, mais peu importe, Ancien et Nouveau Testament, se fait au 4e siècle après Jésus-Christ, sous les débuts de l'empereur Constantin. Et nous en avons, alors qu'il avait demandé 50 manuscrits calligraphiés de des traditions et de la loi chrétienne. Donc, on lui a écrit, fait copier, et probablement une cinquantaine de gros pavés. En tout cas, on en a gardé, semble-t-il, deux. Enfin, on en a gardé un et retrouvé un autre dans des conditions rocambolesques, mais quand même, qui ont probablement fait partie de ces 50 dans les années 320-330. Il y en a à Rome, le Vaticanus, il y en a un autre qui a des morceaux à Londres, etc. On a un ensemble qui contient à la fois l'essentiel des livres de l'Ancien Testament, l'essentiel des livres du Nouveau. Donc c'est bien des livres chrétiens, ça. C'est Constantin qui demande qu'on fasse ça. Or, la liste des livres de l'Ancien Testament prend un ordre tout à fait original. Au début, ça suit l'ordre des livres du judaïsme, qui ont bien pris un ordre lorsqu'on les a mis en livre, mais ensuite, ça s'en écarte. L'ordre adopté est un ordre qui, bien sûr, met d'abord la loi, ensuite les livres qu'on appelle plus prophétiques, mais historiques, de Samuel et des rois, mais qui met ensuite les écrits, les psaumes, Job, les proverbes, c'est ça les écrits, hein. Et enfin les prophètes. Pourquoi ? Parce que les prophètes sont ceux qui sont le plus exploitables pour qu'on y trouve des annonces de l'Alliance nouvelle et de Jésus-Christ. C'est dans Jérémie 31 que vous avez, pour l'unique fois dans la Bible, je vais conclure avec mon peuple une alliance nouvelle. Elle ne sera plus comme celle de leurs ancêtres, etc. Celle-là, elle sera inscrite sur leur cœur. Unique fois, Jérémie 31-31. Dans la Septante, ce n'est pas tout à fait la même référence, parce que le livre est brouillé, mais peu importe. Donc on le met le plus près possible du Nouveau Testament, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, le dernier prophète, Malachi, se termine par « Élie va venir pour préparer la venue du Seigneur ». Préparer la venue du Seigneur, préparer ses chemins. Quand vous ouvrez le Nouveau Testament, qui est-ce qui paraît sur les rives des Jourdains en disant « Préparer les chemins du Seigneur » Jean-Baptiste. Et les évangélistes diront « Mais Jean-Baptiste, c'est Élie ». D'ailleurs, le peuple dira « Mais c'est Élie qui revient », etc. Donc, on met en dernier ce qui annonce le plus. En gros, la vision chrétien des choses, elle est d'une certaine façon beaucoup plus historicisante, mais surtout, elle fait comme si on posait la loi, la mort et la résurrection de Jésus comme critère, grille d'interprétation au-dessus de l'Ancien Testament. Comme un aimant, si vous voulez, un gros aimant, j'ai mis une barre, un gros aimant qu'on met là, et du coup l'Ancien Testament, mais il se met à s'aligner avec ce qui est le plus proche, en dernier, qui se met le plus près, ça marche ? Bon, je simplifie, mais quand même, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Pour pouvoir dire, comme c'était écrit dans le prophète. Voilà. Ainsi qu'il est écrit dans le prophète, vous dit Matthieu. Mais oui, allez regarder, il est juste avant le prophète. Il l'a annoncé. Alors, ça me fait dire deux choses. Un, quand vous regardez l'ensemble des cercles du Tanakh, la Bible juive se suffit à elle-même, sauf qu'elle a le Talmud en plus, elle n'annonce pas en soi le Messie Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Voilà. Elle n'annonce pas en soi. On peut lire la Bible si on est juif et ne pas y lire l'annonce du Messie Jésus de Nazareth, Christ et Seigneur des chrétiens. Ça marche ça ? Ça, il faut bien l'avoir en tête. Elle n'est pas faite pour ça, il n'y a pas l'annonce dedans. Même s'il y a des annonces de personnages, etc. Non. Il y a des figures. Mais... Relue par les chrétiens, organisée, traduite en grec et surtout reprise et organisée par les chrétiens. Il y a cette espèce de d'aimant de la croix et de la résurrection qui vont tirer de la Bible, qui était la Bible juive, tous les éléments qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent annoncer un peu. Évidemment, la figure du serviteur souffrant fait penser à Jésus. Le psalmiste qui est en train de hurler « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui dit qu'on lui a arraché ses vêtements, qu'on les tire au sort, qu'on le déchire, qu'il y a des chiens qui crient après lui, etc. Évidemment, tout d'un coup, ça se met à résonner. Évidemment, le livre de Malachi, Élie qui va venir pour préparer les chemins du Seigneur, ben, on le comprend autrement. Voilà, et donc, du coup, à cause de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, auquel on croit comme Seigneur Christ, on va tirer de la Bible d'Israël tous les éléments qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent l'annoncer. Ça marche ? Et en ce sens, on dira, et c'est très juste, comme le dit Augustin, que le nouveau est caché dans l'ancien, et l'ancien est déjà apparaît dans le présent. Il y a un lien fort entre les deux, à travers ces figures, à travers un certain nombre de versets. On peut, et parfois des versets qui sont effectivement dus à la traduction de la Septante, on peut le lire comme ça. Mais c'est une lecture chrétienne. Vous ne pouvez pas l'imposer à celui qui n'admet pas que, au fond, Jésus de Nazareth est le Seigneur, Fils de Dieu, ressuscité. Vous ne pouvez pas l'imposer. Vous pouvez lui dire, si, regarde, il y a des ressemblances. Mais non, ça ne s'impose pas. C'est important, ça. Parce que ça clarifie notre discussion aussi avec le monde juif. Ça marche, ça ? C'est pas trop compliqué ? Bon. Non, il faut être clair. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Vous l'avez, la liste. Pour que vous vous y reconnaissiez dans vos Bibles, le problème.
Bonjour.
Voilà, notre libraire est là, qui va vous apporter toutes sortes de Bibles. Je vous les montrerai tout à l'heure.
Donc, je vous ai mis ça.
Ça. Justement, j'étais dans la liste des... Quelle heure est-il ?
Il est 10, je suis en avance.
Midi 10 ?
Oui.
Mais c'est moi qui suis en retard.
Je
termine là-dessus. Bon, alors, rapidement, je finis cette liste, d'ailleurs après, c'est fini. La matinée est finie. Alors, c'est compliqué encore une fois, il y a des choses compliquées, parce que les différentes Bibles que vous pouvez acheter aujourd'hui dans le commerce, la Bible de Jérusalem, qui a été en monde catholique la plus vendue, la plus célèbre, etc., une très belle Bible, et qui apparaît sous la forme la plus réduite, si vous voulez avoir une Bible de poche, qui tient à la limite dans la poche d'un jean, c'est la Bible de Jérusalem. C'est quand même commode d'avoir une Bible. Bon. La TOB, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui a quand même cet avantage d'être une traduction faite par des groupes de catholiques, protestants, orthodoxes. qui sont entendus sur la traduction. Voilà. La nouvelle Bible, la nouvelle français courant. Il existait une Bible très lue, très répandue chez les jeunes, on l'a distribuée dans les aumôneries de lycée. La Bible en français courant, qui était une Bible beaucoup plus facile à lire, on va dire que le niveau de langue était moins haut et surtout la technicité, le mot à mot du texte était beaucoup plus effacé. A été retraduite, c'est la nouvelle français courant qui est excellente, ça je peux vous garantir, je suis partie du comité qui dirigeait. Alors. Bon, la nouvelle français courant est excellente. Voilà encore une Bible. Et puis il y en a d'autres, il y a la Colombe, il y a bon, la Bible des peuples, etc. Quel ordre des livres dans le Nouveau Testament? C'est facile, tout le monde pareil. Quatre évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul, et ensuite quelques lettres et l'Apocalypse. Très simple. Dans l'Ancien Testament, c'est un bazar à ne pas s'y retrouver. Et, mais oui, mais bien sûr, parce que certains ont adopté l'ordre de la Bible hébraïque, la loi d'abord. Alors ils l'ont mise évidemment dans la succession, on ne peut pas le mettre en... La loi, les prophètes, les écrits, mais que d'autres ont adopté, et la Bible de Jérusalem en premier, Bible chrétienne, l'ordre de la Septante, qui est de toute façon un ordre déjà chrétien. Alors bien sûr, d'abord il y a la loi aussi et les livres de Samuel, mais après c'est très différent. Alors, je vous ai mis ici... Attendez, il faut qu'on se retrouve. Il faut remonter du pas. Vous l'avez, hein, ce document.
Oui, oui.
Vous l'avez. À gauche, l'ordre de la Bible hébraïque, et c'est l'ordre qu'a adopté la TOB. Voilà, traduction œcuménique de la Bible, a voulu aussi, quelque part, se mettre en écho avec le monde juif, et a adopté l'ordre de la Bible hébraïque, et même a traduit la Bible sur l'hébreu. La Torah, les prophètes, avec les prophètes premiers, jugent. Josué, Juge, 1-2 Samuel, 1-2 Roi sont des prophètes, c'est pas des livres d'histoire, c'est des livres qui font résonner la parole de Dieu dans les souvenirs historiques. Ensuite, les 12 petits prophètes, bon petits parce qu'ils sont pas longs, et ensuite on continue, les grands prophètes, non, d'abord les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits, et ensuite les écrits, Psaume, Job, Proverbe, les 5 rouleaux. Et puis le livre de Daniel, Esdras, Néhémie, Chroniques, des livres qui sont tardifs. La Tob ajoute en bas, vous le voyez, la Tob, hein, pas la Bible hébraïque, la Tob ajoute en bas, les livres du deutérocanonique, les livres, certains sont en hébreu, d'autres ne sont qu'en grec, mais ils existent, la plupart existent dans les deux langues, qui n'appartiennent pas au canon juif, mais qui appartenaient au canon grec. Donc en fait, qui devraient être de l'autre côté, mais je les ai mis là parce que la Tob les rentre. D'accord ? Et même la dernière édition de la Tob, 2010, intègre aussi, que vous avez en bas à droite, des tritocanoniques, 6 livres, 6 éléments, parce qu'il y en a, il y a la prière d'Ézéchiel, c'est 2 pages, de la Bible qui appartenaient pas du tout au canon hébreu, et qui n'étaient même pas dans le canon catholique, mais qui était dans le canon orthodoxe, qui a été rentré dans la Tob en 2010, qu'on appelle les tritocanoniques. Alors si vous achetez...
Derrière.
Si vous achetez une Bible, si vous allez chez les protestants, normalement, eux, ils n'ont que la Bible en hébreu, ils s'arrêtent à 1-2 chroniques. Bon, c'est pas vrai, maintenant ils prennent aussi les deutérocanoniques. Enfin, la règle c'était qu'on lit pas, on ne met pas dans la Bible les deutéro et les tritocanoniques. Ça va, ça ? Voilà, dans la Tob, c'est assez facile, c'est clair. Maintenant, je remonte d'un cran. Dans la Bible de Jérusalem, comme dans la Nouvelle Français Courant, et dans les Bibles chrétiennes, normalement, en général, surtout catholiques, on a l'ordre de la Septante. Alors, vous avez d'abord... Au début, c'est pareil, tout va bien. 5 premiers livres, le Pentateuque correspond à la loi, tout va bien. Ensuite, sont dit livres historiques. Mais au début, ça va bien. Juge, Josué juge, 1-2, alors ça s'appelle 1-2-3-4 règne, mais ça correspond à peu près. Ensuite, on met là le livre de Ruth. Pourquoi ? Parce que l'histoire de Ruth, qui est écrite bien plus tard, au 5e siècle, mais en fait, le récit, lui, se situe à l'époque des juges. Donc on le fourre là. Vous voyez ce que je veux dire ? On date non pas d'après le moment d'écriture, mais d'après le contenu, la narration. Donc on l'a mis là. Bon, ensuite, Esdras, etc., Esther, etc., Judith, Tobie, bon, des livres qui ne sont pas dans la Bible hébraïque. Ensuite, il y a les livres dits poétiques, ce sont les écrits, pas tout à fait dans le même ordre. Et il y en a qui sont dans la Bible hébraïque, évidemment, Psaume, Proverbe, Job, le Cantique des Cantiques. On a fait éclater les cinq rouleaux, voilà. Ensuite, les livres prophétiques, avec les petits prophètes d'abord, les grands après, donc dans l'ordre inverse. Voilà. Et la Septante ensuite, pas ensuite, mélangée à tout ça, à ce qu'on appelle les deutérocanoniques. Donc c'est compliqué de s'y retrouver entre deux Bibles différentes. Prenez le carton qui est dedans, qui donne la liste, et là vous y retrouvez. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit bien. Et vous voyez pourquoi maintenant ? Parce que la Torah a repris l'ordre des livres hébraïques, et que la Bible, d'habitude, des chrétiens prenaient l'ordre de la Septante. Et alors, le protestantisme, normalement, a exclu avec Luther les livres deutérocanoniques, n'empêche que, dans la vieille tradition protestante, dans les Cévennes, au XVIIIe et XIXe siècle, et j'ai des amis qui ont les Bibles de leurs grands-parents, il y avait l'ordre de la Septante. Moins des deutérocanoniques, mais il y avait quand même l'ordre de la Septante. Ils avaient une Bible chrétienne. Voilà. Je ne dis pas que la Torah n'est pas chrétienne. Bon, elle essaye de tout tenir. Elle essaye de tout tenir. Voilà, est-ce que vous avez des questions et puis on s'arrête, que vous puissiez manger. Oui.
Oui, en fait, j'ai compris qu'il y avait deux ordres différents, que les chrétiens ont changé l'ordre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des textes différents qui peuvent changer l'ordre ? Vous dites qu'il y a des textes qui sont dans le...
Parce qu'il y a des textes en plus. C'est des textes en plus. Des textes en plus que les juifs n'ont pas gardés dans leur canon.
Ah,
voilà, des textes en plus. Vous ne trouverez pas... dans la liste de gauche, en dehors des deutérocanoniques, Esther, Judith, Tobie, le Siracide, ce qu'on appelle l'ecclésiastique, la lettre de Jérémie, les Maccabées, voilà, vous ne le trouverez pas. Le monde juif connaissait un certain nombre de ces textes, hein, très bien, mais ils ne les veulent pas dans leur canon. Ah, il faut leur demander. Ça s'est passé entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, probablement pour un certain nombre, parce qu'ils avaient été, comme la sagesse de Salomon, le beau livre de la sagesse, parce qu'il avait été écrit en grec, et que les chrétiens s'en étaient emparés, et que donc les juifs n'en voulaient plus. Voilà. C'est une chose très claire, ils ont refusé aussi certaines. Dans certaines, au 2e siècle après Jésus-Christ, il y a eu des juifs qui ont retraduit en grec la Bible hébraïque, voulant la faire échapper aux chrétiens, parce qu'il y avait des juifs qui ne comprenaient pas l'hébreu, il fallait traduire en grec. Eh bien, ils ont supprimé la traduction du mot Messie, qui était Christos, en grec, pour plus avoir de Christos au milieu, partout dans leur Bible, et ils ont traduit par un autre mot qui veut dire enduit ou induile, un autre mot grec, Eleimenos, qui veut dire enduit ou induile. Vous voyez comment ils ont fait ? Il fallait échapper quand même à l'emprise des chrétiens. Alors ça, et puis d'autre part, parce qu'il y a des livres qu'ils ont jugés à la fois des livres tout à fait édifiants, hein, Judith est lue, beaucoup lue dans le monde juif, mais qui n'ont pas fait partie du canon, allez savoir pourquoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Puis je vous libère, je vous dis un mot de la bibliothèque.
Moi, je voudrais être sûre d'avoir compris. Bon, dans le Tob, en fait, on a, nous, enfin, la Bible chrétienne contient bien tous les textes du Tob, mais à des choses en plus, c'est ça ?
Non. Non,
ah,
non.
Voyez,
il faut dire les choses autrement. La Tob a la Bible chrétienne entière, mais elle donne d'abord la Bible hébraïque et elle groupe les choses qui sont en plus dans la Septante à la fin.
D'accord.
Voilà, en disant c'est une deuxième loi, d'accord ? Elle a la Bible hébraïque et ce que les chrétiens ont gardé en plus, au lieu de le disperser comme c'est dans la Septante, elle en fait un bloc à la fin. Ça va, c'est plus clair ?
Oui.
Très bien, merci. Bon, vous avez en haut le libraire, donc avec toutes sortes de Bibles qui peuvent vous intéresser, des grosses. Alors évidemment, la Tob, c'est une Bible d'étude et actuellement peut-être la plus précise encore qu'on est en train de la retravailler. Bon, toutes sortes de Bibles, des petites, des grosses, etc. Et vous avez un certain nombre de livres qui sont d'ailleurs proposés dans la feuille de bibliographie que vous avez dans votre dossier avec, je crois, pour bien entrer, si vous voulez, entrer dans l'Ancien Testament, les noms de Ska, Jean-Louis Ska, et les noms surtout de Thomas Romer, qui est un exégète protestant qui a été professeur au Collège de France pendant plusieurs années. sont quand même très intéressants. Romer Escatou, c'est un prêtre âgé qui enseigne à Jérusalem. Ils ont quand même une clarté d'exposé, une façon d'exposer les choses de façon claire et intéressante, qui à mon avis est assez géniale. Vous avez aussi une introduction à l'Ancien Testament qui est beaucoup plus, j'allais dire, par thème, thématique, par Gérard Billon. Et pour ceux qui veulent de l'archéologie et de l'histoire, il y a le livre de Mario Liverani, La Bible et l'invention de l'histoire. Alors là, il faut vraiment aimer l'histoire et l'archéologie. L'histoire ancienne, et l'âge du fer, et l'âge du bronze, etc., etc. Mais on peut, on a le droit. Voilà.
Il est plus accessible entre Tesca
et Romer. Oui, il y a une question.
C'est une question qui dépasse spécifiquement le point ici. On a commencé, c'est écrit introduction, le texte biblique comme texte de révélation.
Oui.
Tout le travail qu'on fait, on décortique.
Oui.
Je suis un peu perdu sur ce qui finalement reste révélé dans tout ce texte.
Oui.
Malgré, on comprend l'histoire, le scribe.
Malgré ou à cause?
Justement, c'est la question.
La question, moi, je crois. Alors, vous avez une très bonne question. Est-ce que ce travail qu'on fait de remise en histoire, de remise dans l'histoire, nuit, stérilise, hein, c'est ça que vous voulez dire finalement, ouais, dessèche,
dessèche
la révélation, ça désincarne, ou au contraire, est-ce que ça l'incarne? Et de fait, du coup, il faut s'entendre sur le mot révélation. Est-ce que la révélation, c'est la révélation coranique, la parole de Dieu qui tombe du ciel et vous la notez, ou est-ce que la révélation, c'est des hommes en quête de Dieu qui se mettent à l'écoute d'une parole qui les précède et dont qu'ils n'atteignent que par bribes et qu'à leur mesure. Et ça, c'est une révélation sous le mode d'incarnation. Et ça finira par Jésus de Nazareth qui, alors, est la révélation de Dieu totalement incarnée. Vous voyez ce que je crois? Donc c'est le mot révélation qu'il faut interroger. Bien sûr, alors vous avez l'Apocalypse, ça c'est une révélation. On tire le rideau et vous avez la liturgie céleste. Bon, et en bas, les hommes s'entretuent. On peut regarder les choses comme ça, et c'est intéressant, mais en fait, c'est une espèce de résumé de la révélation biblique, mais la révélation biblique, c'est pas d'abord ça, c'est d'abord cette façon très incarnée dont Dieu, qui est à l'affût de l'humanité, se laisse trouver dans les méandres d'une histoire humaine compliquée, complexe, avec des gens plus ou moins religieux ou pas, intelligents ou pas, spirituels ou pas, et même ceux qui remportaient la victoire disaient c'est grâce à Dieu, enfin Dieu avec nous, et puis un tédéum parce qu'on a remporté la victoire, il n'y a pas si longtemps, hein. Ce Dieu-là, moi j'ai un peu de mal, mais bon, voilà, il se révèle aussi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un Dieu qui, au fond, se révèle à la mesure de ce que les hommes peuvent en comprendre. Je crois que c'est le principe d'incarnation qu'il faut tout de suite lier à révélation.
Donc il n'y a pas de texte sacré pour nous, au sens comme vous avez dit.
Ah non, comme dans le Coran, ou même.
Le ciel, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très incarné, qui se transmet, et puis un jour il est mis sur la.
Voilà, mais je pense qu'en partie le Coran connaît aussi ça. Hein. Moins, probablement, il a été moins travaillé, mais il a été quand même. Alors bien sûr, on a longtemps lu la Bible comme un texte qui tombait du ciel. Mais il y a, ça fait, enfin, comment dire, longtemps. Non, justement. On l'a lu à partir du moment où la Bible est devenue, au fond, un texte sacré, où on l'a arraché. C'était interdit hein, dans le catholicisme de lire la Bible. On l'a arraché aux chrétiens pour en sortir un discours de révélation et un discours pieux et moralisant qui s'en assortissait. Mais les premiers, les pères de l'Église, ils lisent la Bible comme une forêt de symboles. Origène dit bien sûr qu'il faut lire la Bible au premier degré, texte littéral, mais si vous la lisez uniquement au degré littéral et historique, vous blasphémez. Parce que la parole de Dieu, c'est quand même autre chose. Et il y voit partout des symboles, voilà. Donc, non, la parole de Dieu ne tombe pas dessus. Elle se cache dans l'histoire humaine. Elle ne se cache pas. Elle est présente, mais il faut là. Et elle attend que les hommes la découvrent, et ils ne sont pas très forts pour ça. Hein. Mais en tout cas, merci pour la question, c'est une belle question. Bon, je vous laisse déjeuner, il est tard, il est 12h30. Est-ce qu'on reprend à 1h30, vous aurez le temps de manger et de regarder quelques livres? Sinon, on tardera un petit peu.